Alors, je vais juste faire deux, trois mots d'introduction. Donc, merci beaucoup d'être venu nous soutenir pour cette dernière soirée de Café Scientifique de l'année 2018. Donc, si on est un petit peu clairsemé, il y a quand même beaucoup d'événements ici à l'université ce soir. On en a un juste au-dessus. Il y a aussi la remise des bachelors en faculté de lettres, donc ce qui explique sans doute le peu de monde, mais néanmoins de qualité qui est présent ce soir. Donc je suis sûr que de toute façon la discussion sera de haute tenue. Donc je voudrais remercier le professeur Dominique Sprumont qui a bien voulu accepter de trouver les intervenants de ce café scientifique et qui a proposé ce sujet de la génétique récréative. Donc il va tout vous dire en introduction et il va aussi mener la discussion en compagnie de ses collègues qu'il a invités. Voilà, je vous souhaite une bonne discussion. Merci.
Merci, Chibli. Merci à vous d'être là. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Université de Neuchâtel. Petite université, mais de grande taille, comme dirait notre recteur. On est ravis de vous avoir. Alors, la génétique récréative, qu'est-ce que c'est ? On pourrait penser que c'est les OGM dans les petits pains au chocolat ou ce genre de choses, donc la transformation de nos aliments à des fins de récréation, c'est pas ça. La génétique récréative touche à un domaine particulier qui est en recrudescence actuellement, c'est vraiment un domaine qui est en augmentation, où, contrairement à l'usage ordinaire de ce qu'on entend de la génétique, qui est un outil très important dans le domaine biomédical, ben on va utiliser les connaissances génétiques à d'autres fins que des fins biomédicales. Alors dans le domaine biomédical, vous savez tous que notre santé ne dépend pas seulement de l'accès à un médecin. Hein, ça, on sait que le système de soins dont on parle beaucoup, les coûts des soins, c'est pas les coûts de la santé, le coût des soins augmente, que les primes d'assurance augmentent. Notre santé, c'est démontré depuis les années 70, n'est influencée que de l'ordre de 15% par l'accès aux soins. L'essentiel de notre santé dépend de facteurs extérieurs qui sont l'environnement physique, l'environnement social, mais également notre environnement intérieur le plus intime, notre patrimoine génétique. Nous avons tous un patrimoine génétique qui nous est propre, mais qu'on partage avec nos ascendants et nos descendants. Et donc, notre patrimoine génétique n'est jamais aussi unique, puisque nous le partageons avec notre famille, famille connue, famille inconnue. On y reviendra probablement pendant la discussion. Et évidemment, cette génétique va déterminer le fait que nous soyons atteints de certaines maladies. Alors, il y a des maladies génétiques dominantes qui font que si vous êtes porteur d'un gène, je pense par exemple au gène Delta508F, qui est un des gènes connus pour la mucoviscidose, eh bien, malheureusement, si vous êtes porteur de ce gène, vous n'y couperez pas, vous êtes porteur de la mucoviscidose. La plupart des maladies sont des maladies dites multifactorielles. Elles ne sont pas seulement génétiques, mais la génétique, notre génétique, va créer des prédispositions à tomber malade ou à ne pas tomber malade. Il y a des facteurs protecteurs comme des facteurs aggravants. Et donc, évidemment, les médecins, aujourd'hui, utilisent de plus en plus ces connaissances pour nous apporter des soins qui sont toujours le plus près de nos besoins. On parle d'ailleurs de plus en plus, vous avez certainement déjà entendu parler, de la médecine de précision, de la médecine personnalisée. On parle aussi de santé personnalisée. Et il y a d'ailleurs un grand projet par rapport à la Fondation Lénard, si ça vous intéresse. Je pense qu'ils viennent d'ailleurs de ressortir aujourd'hui des informations sur leur site sur la santé personnalisée. Je vous invite à en prendre connaissance. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. La génétique récréative. C'est l'usage de la génétique à toute autre fin que, justement, le domaine biomédical, le domaine de la santé. Alors, je vais vous laisser découvrir à travers les différents orateurs que nous avons invités aujourd'hui ce que cela recouvre. Ça recouvre évidemment des questions d'identification. On a un spécialiste avec le docteur Vincent Castella, un spécialiste de la médecine forensique et donc on a un Sherlock Holmes des gènes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, à travers ces gènes, on va identifier les gens, on va identifier les criminels, on va aussi faire des tests de paternité, on va reconstruire des familles, on va ou peut-être les séparer, malheureusement. Nous avons aussi M. Frédéric Erard, qui est avocat, qui est doctorant, assistant, spécialiste des questions de protection des données et de secret médical, qui va exposer plutôt ces aspects-là, puisqu'on parle de données qui sont sensibles, des données qui nous sont personnelles, et évidemment se pose la question des risques de transférer des informations sur ces gènes à des tiers, et quelles sont les conséquences, quels sont les outils à disposition pour pouvoir prévenir ces risques, les sanctionner lorsque malheureusement ils se réalisent. Et enfin, M. Peter Forster, qui est juriste à l'Office fédéral de la santé publique, qui est un spécialiste de ces questions, qui a fait le suivi de toutes les étapes de la dernière révision de la loi sur l'analyse génétique humaine. Il est en train de travailler d'ailleurs sur l'ordonnance d'application de la loi sur l'analyse génétique humaine, qui introduit, et c'est une des raisons pour laquelle on fait ce café scientifique, qui introduit maintenant dans la législation certains aspects de cette génétique récréative qu'il s'agit d'encadrer. Alors voilà, c'est le cadre. J'ai omis de me présenter, je suis professeur en droit ici à l'Université de Neuchâtel, où on a créé l'Institut de droit de la santé, ça fait 25 ans, on a fêté nos 25 ans au mois de septembre. Je suis également, depuis 10 jours, le président de la commission d'éthique de la recherche du canton de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, donc j'ai pour responsabilité d'évaluer les projets de recherche, également d'ailleurs dans le domaine de la génétique, lorsque ces recherches impliquent des êtres humains, et donc ça fait partie de mes fonctions. Et en plus, je suis professeur invité à la faculté de médecine à Lausanne sur les questions de santé publique. Donc voilà un petit peu. Je suis aujourd'hui l'animateur, j'essaierai de pas trop accaparer, mais dans le programme, ce chibi a dit, vous avez 3-4 minutes pour introduire la matière. J'espère que je suis encore dans les temps. Merci beaucoup. Et ben, sans tarder, je vais vous proposer chacun de nos orateurs de se présenter, et puis après, on va sauter dans la matière.
Bonsoir tout le monde. On va parler de récréation ce soir, donc je me suis dit, il faut absolument que je vienne. Donc je m'appelle Vincent Castella, et je suis biologiste à la base. J'ai fait un doctorat en génétique des populations, et maintenant, ça fait 17 ans que je travaille dans le domaine de la génétique forensique, donc la génétique médico-légale, où effectivement, eh bien, notre mission principale est d'aider la justice, d'aider les policiers qui essayent de résoudre des affaires en fournissant des éléments, des indices, grâce à l'ADN. Et à côté de cela, on fait aussi des tests de paternité, donc des personnes qui se posent des questions sur leur filiation. Et là aussi, on va essayer de leur donner, grâce à l'ADN, des éléments objectifs, essayer de voir à quel point nos analyses ADN permettent de soutenir ou de réfuter un lien de parenté. Voilà, et mon laboratoire est le seul laboratoire en Suisse romande, donc on travaille pour tous les cantons romands. Et à côté de cela, je suis aussi à l'Université de Lausanne, maître d'enseignement et de recherche et privat docent. Donc j'enseigne aussi à l'université.
Bonsoir, je m'appelle Frédéric Erard, donc je suis assistant doctorant à l'Institut de droit de la santé. Je suis titulaire du brevet d'avocat également. Et je travaille essentiellement sur les questions de secret médical, mais ça s'étend un peu plus largement aux données de santé. Et lorsque Dominique Sprumont m'a proposé de venir parler de génétique récréative, c'est un sujet peut-être annexe à mon champ de travail habituel, mais c'est très intéressant. Il y a un côté, on verra, transnational aussi, qui pose des questions assez épineuses. Donc voilà, je me réjouis d'échanger quelques mots là-dessus.
Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Peter Forster. Donc, comme Dominique Sprumont l'a déjà dit, je travaille à l'OFSP à Berne, mais nous, on s'est connus il y a 20 ans, je dirais, à l'Université de Fribourg. Et puis maintenant, ça fait 16 ans que je travaille à l'OFSP, surtout dans des projets de législation dans le domaine de la biomédecine, donc la loi sur les transplantations, et puis la loi sur la procréation médicalement assistée, et maintenant la loi sur les analyses génétiques. Comme M. Sprumont a dit, au début, la loi... Il y a la première version de la loi qui est encore en vigueur maintenant. Elle couvre surtout tout ce qui est l'aspect médical des analyses génétiques et puis aussi les tests de paternité. Et maintenant, on a vu, voilà, il y a le marché de la génétique, ça a beaucoup changé. Les analyses sont devenues beaucoup moins chères. il y a 30 ans encore, ou 20 ans, quand il y avait le premier projet pour décoder toute l'ADN humain, ça a coûté 3 milliards de dollars, et maintenant on peut décoder le génome entier d'une personne pour 1000 dollars, donc ça a beaucoup baissé au niveau des prix. Alors, on fait maintenant des analyses aussi en dehors du domaine médical. Et ça, justement, avec la révision de la loi, on a essayé d'inclure ces tests-là aussi dans le champ d'application. Puis voilà, peut-être on en parlera encore plus tard.
Merci beaucoup. Vous avez chacun un micro, en tout cas il y en a deux qui sont sur la table. Je pense que c'est important. Alors j'ai tenté de vous faire une petite esquisse de ce dont nous parlons, et je crois que ça vaut la peine de clarifier les choses. Je propose de refaire un petit tour de table maintenant pour que chacun d'entre vous, du point de vue de votre domaine de spécialité, de votre domaine de compétences et d'activité professionnelle, si vous pouviez nous donner votre définition et votre compréhension de ce que recouvre justement cette génétique récréative.
Enfin, je vais essayer celui-là.
Ah oui, tout le monde prend son micro. Voilà. C'est...
Donc, vous m'entendez bien aussi avec le micro rouge ? Ça va ? Parfait, merci. Alors, récréative, ouais, c'est un petit peu délicat. Hein. Comme, c'est vrai que le terme est un peu vague. Ce que ça sollicite chez. Enfin, ce que ça éveille en moi, on va dire, c'est des aspects de génétique qui sont faits, on va dire, un peu pour le plaisir, par curiosité, où des personnes de leur propre chef ont décidé, par rapport à leur ascendance ou par rapport à peut-être des prédispositions à certaines maladies, à entreprendre ce type de démarche. Et c'est vrai que pour moi, ce que ça sollicite aussi, c'est bien sûr les aspects commerciaux qui vont avec. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas cadré. Les gens sont peu informés des limites, voire des risques, hein, par rapport à la protection des données. Et puis finalement, cet ADN, il est aussi devenu une sorte d'élément commercial. On peut trouver des shampoings à l'ADN, des crèmes de beauté anti-âge à l'ADN. Donc dès qu'on voit le terme ADN est vendeur. Donc le fait de proposer des tests ADN pour voir si des personnes sont compatibles, ou des tests ADN pour déterminer le caractère d'une personne. Tout ça, ça reste quelque part de la science-fiction, mais quelque part, ça intrigue, ça intéresse, parce qu'il y a le mot ADN dedans. Donc je pense que, enfin, en tout cas, personnellement, je suis très, très critique par rapport à ces choses. Souvent, le contexte scientifique n'est pas assez, à mon avis, bétonné, et le contexte juridique ou légal est souvent aussi un peu flou. Donc, méfiance.
Le contexte un peu flou du point de vue légal, je pense que Peter Forster pourra mieux répondre que quiconque, mais peut-être d'abord la prise de position ou l'avis d'un spécialiste du secret médical.
Bon, de mon point de vue, c'est vrai que si on regarde la législation, donc on a la loi sur les analyses génétiques médicales, on en parlera après. Donc pour moi, récréatif, il faut sortir en fait tout ce qui est par exclusion. En fait, il faut sortir tout ce qui est médical, biomédical. Il faut sortir ce qui relève du domaine des assurances, du travail. Et puis à partir de là, eh bien, on a cette notion de plaisir qui est pas très facile à définir. Mais effectivement, dès qu'on sort de là, eh bien, en fait, il y a un aspect effectivement très commercial. Et il suffit d'aller voir quelques-uns des sites web qui proposent ce genre de tests. Ils sont très forts en marketing. Parmi les plus grands, les grands sites. Enfin, vous allez faire un tour là-dessus, vous avez vraiment envie d'essayer. Vous avez des petites stories qui vous racontent des histoires merveilleuses de personnes qui ont découvert des connexions inattendues. Une fille qui avait grandi dans une famille chrétienne et qui se sentait juive, et tout d'un coup, avant son mariage avec une personne juive, a découvert qu'elle était juive, et c'était absolument magnifique. Donc on a ce côté, effectivement, récréatif. Et puis, à mon avis... Si on parle de protection des données, eh bien, il y a un côté, peut-être qu'on en parlera un peu plus après, mais du point de vue économique, un peu poudre aux yeux, de collecte. On veut chercher à collecter des données pour ensuite en faire quelque chose. Peut-être qu'on en reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais donc, il y a ce côté, c'est vraiment quelque chose de super. Découvrez, faites le test vous aussi, et vraiment un aspect très marketing en premier lieu.
Je pense qu'il y en a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Juste un truc, peut-être. La ligne entre le médical et le non-médical, elle n'est pas une ligne claire et nette. Disons, par exemple, les problèmes de surpoids. Ou bien quelqu'un, même moi, je peux aller chez une diététicienne et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien perdre 5 kilos, même si je ne suis pas en surpoids. Et puis elle va me dire, ouais, on peut faire l'analyse génétique, comment fonctionne votre métabolisme, et puis on regarde quelle est la nourriture qui vous convient pour pouvoir baisser votre poids. Là, je dirais, c'est récréatif. Mais par contre, après, il y a des gens qui ont effectivement des problèmes de poids, et puis peut-être la génétique, elle pourrait les aider à perdre du poids. Donc la limite de ces tests-là, est-ce que c'est du médical, est-ce que c'est en dehors du domaine médical, c'est pas clair. Et là, donc aussi la limite entre récréatif et médical, elle n'est pas claire et nette. Ça dépend toujours des cas et du but de l'analyse qu'on fait.
Ouais, je pense que c'est vrai que c'est important de faire cette distinction et en même temps c'est difficile à l'établir hein, dans la pratique et on voit toute la prudence et la difficulté du législateur. On vient de vous le dire, hein, la législation vient de changer, elle n'est pas encore en œuvre, c'est compliqué pour pouvoir avoir quelque chose qui fasse du sens, on y reviendra certainement. Mais peut-être avant ça, vous êtes un spécialiste de médecine forensique, de science forensique. C'est pas de la rigolade, la science forensique, c'est pas de la récréation, je veux dire, bon, à part les séries américaines, l'identification d'auteurs d'actes de violence ou l'identification aussi dans le domaine des requérants, etc. Il y a plein de domaines où on utilise cette génétique à des fins scientifiques, à des fins forensiques. En quoi ça se distingue et en quoi il y a quand même des points de rattachement avec ce que vous faites?
Alors effectivement, on a parlé jusqu'ici de médical et de non-médical. En fait, il y a encore une séparation avec le médico-légal ou le forensique, comme on dit maintenant. Donc, à côté de la loi sur les analyses de génétique humaine, on a une loi sur les profils ADN qui régule tout ce qui a trait à ces aspects médico-légaux. Donc, au domaine de, pour parler, j'aime pas trop ce terme, mais d'identification par l'ADN. Donc, ça, c'est vraiment ma spécialité. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, ben, suite aux analyses qu'on peut produire, eh bien une personne peut finir en prison ou pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où il y a beaucoup de pression. Il y a parfois aussi des affaires graves où il faut fournir des résultats en urgence pour essayer d'éviter la récidive. Donc voilà, c'est vraiment un domaine un petit peu particulier. Par contre, là, le point de connexion, il y en a certainement d'autres, mais c'est ces approches généalogiques qui se font notamment aux États-Unis. Donc là, pour mettre un petit peu de contexte là autour, imaginons qu'il y ait un crime grave, un homicide ou un viol, et qu'on arrive à retrouver un ADN qui est supposé être celui de l'auteur, par exemple une trace de sperme dans le contexte de l'agression sexuelle. Et puis, on a cet ADN de la trace de sperme. On le soumet dans la banque suisse de profils ADN, ce qu'on fait toujours dans ce genre de cas. Et s'il n'y a pas de correspondance qui est mise en évidence, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a un élément, on a cet indice, cette trace de sperme, on a son ADN, mais il n'y a personne qui correspond dans la base de données suisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut soumettre le profil ADN à l'étranger. Alors ça, c'est assez fastidieux, hein, parce que comme on ne fait pas partie de l'Europe, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ça va s'arranger d'ici 7-8 ans, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut faire 7-8 siècles, hein, par rapport à certains. Je suis pas certain.
Ça dépend aussi un peu des autres dossiers, en fait. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a des possibilités qui se font dans d'autres pays, qui sont d'essayer de dresser une sorte de portrait robot génétique de la personne, sur la base de l'ADN. En Suisse, étonnamment, on peut faire des recherches familiales. Donc ça veut dire que on peut interroger la base de données suisse pour voir si on ne retrouve pas la personne qui est à l'origine de la trace, mais en parent proche de cette personne. Et puis voilà que maintenant, aux États-Unis, eh bien, ils commencent à utiliser des bases de données généalogiques pour essayer de résoudre des crimes. Donc voilà, c'est vrai que Ce sont des, là on parle maintenant de zones grises au niveau de la loi suisse et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Je crois qu'une particularité aussi de ce domaine, mais comme je pense aussi de la génétique médicale, c'est que ce sont des techniques qui évoluent tellement rapidement qu'en fait la loi a de la peine à suivre.
C'est vrai? Là, j'aimerais interpeller Frédéric Guérard sur ce point particulier de l'usage à des fins forensiques de données qui ont été finalement mises à disposition à des fins récréatives. Est-ce qu'on peut garantir, lorsqu'on participe à un test justement généalogique, que nos données ne seront pas utilisées à des fins judiciaires?
Bon, la question, je dirais qu'elle est quand même assez théorique dans le sens où finalement il y a assez peu de ces données récréatives qui sont traitées en Suisse, enfin collectées au moment où vous envoyez votre échantillon. Mais la plupart de ces données-là se trouvent à l'étranger et principalement aux États-Unis. Si on imaginait qu'il y avait des données telles que celles-ci qui étaient stockées en Suisse. Il y a un principe, en tout cas en procédure pénale, qui est celui de l'interdiction de la phishing expedition, c'est-à-dire que si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas aller juste dans des bases de données pour aller fouiller. Donc là, il y aurait probablement des limites. Maintenant, en ce qui concerne les données aux États-Unis, je ne suis pas un grand spécialiste du droit américain, mais effectivement, quand on lit les conditions générales de ces différents sites de génétique récréative, eh bien, ils réservent tous effectivement le cas où ils seraient obligés de communiquer des données en vertu de la loi sur une obligation. Donc on a déjà vu un ou deux cas, en tout cas il y en a un aux États-Unis qui est assez célèbre, je crois qu'il y en a peut-être eu quelques-uns, où on a réussi à identifier un meurtrier, violeur, je crois que c'était en Californie, via une de ces bases de données publiques. Mais je pense que vous êtes mieux au fait que moi. Et puis effectivement, dans ce cas-là, la compagnie avait effectivement, suite à un mandat, donné accès à la base de données. Donc, il y a... Et puis surtout, quand on parle des données génétiques, la chose qu'il faut bien garder en tête, effectivement, ce qu'on peut mettre en lien ici, c'est que c'est des données qui ne sont pas strictement personnelles, entre guillemets, mais pluripersonnelles, c'est-à-dire que c'est des données qui concernent pas seulement vous-même, mais aussi les membres de votre famille. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, c'est-à-dire qu'en général, on pense toujours aux données récréatives, bon, ben, vous dites, je prends seulement le risque pour moi-même, c'est pas très grave, mais en fait, il faut regarder un peu plus large et penser aussi ce que pourrait penser votre famille d'un tel comportement.
Donc, si vous avez un criminel dans la famille, ne faites pas de test généalogique pour protéger cette personne.
Exact.
Je vais pas provoquer, mais en même temps, en vous écoutant, je suis en train de me dire que le législateur suisse, en introduisant un chapitre sur la génétique récréative, en fait, il a peut-être un agenda caché, c'est qu'il voudrait qu'il y ait davantage de tests récréatifs en Suisse pour pouvoir donner accès à M. Castella, ses banques de données chez nous.
C'est pas du tout le cas. Non. Le problème actuellement, c'est que la loi qui est en vigueur, elle ne couvre que le domaine médical. Et puis tout ce qui se passe en dehors du domaine médical, il n'y a pas de législation, à part la législation générale sur la protection des données, par exemple. Mais il n'y a pas d'autres législations. Donc le but, c'est pas du tout de mettre à disposition après des données, mais c'est plutôt de régler comment doivent être traitées ces données.
Je vais faire un dernier tour de chauffe et puis après, ce sera votre tour. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer avec vos questions, d'accord? Comme ça, je fais du consentement éclairé avec tout le monde. Monsieur Castella, c'est vrai que ces histoires, elles sont quand même absolument fascinantes, ce qu'on a pu entendre. Il y a des cas aux États-Unis, il y a une équipe aussi en Angleterre qui a développé cette nouvelle approche où ils travaillent en faisant des connexions familiales. Vous pourriez pas nous en dire plus, parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle. Moi, en premier, qui aimerais entendre un spécialiste sur ces affaires.
Donc effectivement, il y a plusieurs affaires aux États-Unis qui ont été passablement médiatisées. Donc, il s'agit généralement de ce qu'on appelle des cold cases, donc des affaires, des crimes qui sont irrésolus depuis un certain nombre d'années, et bah, pour lesquels des approches, on va dire indirectes, ont été tentées, Et par approche indirecte, je parle ici de recherche familiale, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure avant, c'est-à-dire de rechercher dans les bases de données s'il y a un ADN qui n'est pas identique à celui qu'on trouve pour une trace, par exemple une trace de sperme, comme je parlais avant. Donc un profil ADN qui n'est pas identique, mais qui est proche et qui pourrait avoir été laissé par un parent proche du donneur de cette trace. Donc ça, ça a permis de résoudre un crime assez important il y a plusieurs années déjà. C'est un crime assez qui a été très médiatisé aussi, commis par la personne qu'on appelait le Grim Sleeper, qui est une personne qui a assassiné et violé un certain nombre de femmes. Et puis il s'appelle le Grim Sleeper parce qu'en fait, il a été inactif pendant une période d'à peu près 14 ans. Donc il a eu son activité criminelle, ensuite il a arrêté pendant un certain temps, donc il est rentré en dormance en quelque sorte, et après il a recommencé à faire des méfaits ou à commettre ses crimes. Et en fait, cette personne n'était dans aucune base de données, et du coup, grâce à une recherche familiale, la police a pu mettre en évidence le profil ADN de son fils, qui lui avait été fiché au niveau de l'ADN. Donc ça a permis de résoudre cette affaire. Et plus récemment, il y a une affaire qui a été résolue par une approche généalogique, justement. C'est le Golden State Killer, qui, lui, en fait, a aussi assassiné et violé un certain nombre de femmes. Et il était retrouvé par une étude généalogique qui, en fait, a fait un lien avec un cousin du troisième degré. Donc, avec ces études généalogiques, en fait, il y a une grande partie de l'ADN qui est analysée. Donc, c'est une approche différente de celle qu'on utilise, en tout cas dans le domaine forensique. Et plus on analyse une grande partie de l'ADN, plus on va avoir accès à des parents éloignés. Et donc, dans ce genre de recherche, il s'arrête aux cousins du troisième degré, sur des personnes qui partagent en arrière-grands-parents.
Je peux vous poser une question de clarification. Je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre. Pas tout le monde va faire ces tests. À partir de quel pourcentage de la population qui a fait ces tests, on va pouvoir considérer qu'on est tous fichés ?
Ils ont fait quelques recherches. Il y a un article qui a été récemment publié dans le journal Science. Et une équipe donc, s'est intéressée à cette problématique. Et ils ont déterminé que du moment que 2% de la population a contribué à ces analyses généalogiques, eh bien, ça donne accès à l'ensemble de la population. À travers ces troisièmes, à partir de ces cousins du troisième degré.
Donc, imaginez, donc 2% et on sera tous fichés. Donc ça va aller assez vite, c'est important. Désolé pour le téléphone, faites comme je dis, pas comme je fais.
Juste pour les chiffres, donc une des plus grosses compagnies aux États-Unis en 2017 avait annoncé qu'elle avait eu déjà 4 millions de clients. Principalement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Donc si on continue à ce rythme-là.
On y sera vite.
On y sera vite.
Je profite que tu aies la parole parce que vous avez affirmé avant, M. Castella, que le droit a du retard. Puis en même temps, les règles de procédure existent maintenant depuis des décennies, voire des siècles. Hein, la protection des prévenus, la protection du principe d'innocence, je pense qu'il est très important. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez que nous, ici, qui sommes tous innocents, bien évidemment, devons nous inquiéter de cette situation, ou bien est-ce que dans les règles de procédure ordinaires, hein, qu'on retrouve en droit pénal, en droit administratif, en droit civil, il y a suffisamment d'éléments de prévention pour éviter que des abus se produisent du point de vue, notamment de l'usage de ces données du point de vue de la police ou de la justice ? Non, c'est à toi que je peux.
Okay. À l'heure actuelle, il y a des éléments de protection qui sont assez importants, notamment au niveau de la police. On voit qu'il y a des règles qui sont quand même assez strictes, avec des règles de procédure, destruction de l'échantillon. Peut-être que vous connaissez sûrement mieux que moi, mais effectivement, il y a un certain nombre de règles qui sont assez strictes, en tout cas en Suisse. Et Ça m'inquiète pas trop. On ne sait jamais comment la loi va évoluer dans le futur, évidemment. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, on pensera différemment. Ce qui m'embête un peu plus ici, c'est le côté vraiment transnational de ce business. C'est qu'on ne sait pas trop où on va envoyer nos données. Souvent, on reçoit les kits. certaines sociétés ont un siège en Irlande, la plupart sont quand même aux États-Unis. Et puis là, je pense que c'est peut-être le... Je sors un petit peu de la procédure, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. C'est que c'est vraiment... Il y a vraiment tout un business model là autour. C'est-à-dire que les tests, ils les font presque limite à perte, je ne suis pas sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de collecter des données. Et il y a des membres du conseil d'administration de la plus grosse société aux États-Unis. Je la nomme pas parce que je veux pas faire de pub ici, mais qui a clairement affirmé, nous, sur le long terme, ça nous intéresse pas vraiment de faire des tests récréatifs et de vendre des tests. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est devenir le nouveau Google de la médecine personnalisée. Donc, là, il l'affirme ouvertement. On veut collecter des données. Et puis, on voit que maintenant, il y a déjà un commerce qui est mis en place. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes de la recherche. Cette société en question, elle a parmi ses actionnaires Google et des filiales de Roche. Et puis, après, il y a des possibilités où on peut donner son consentement pour des projets de recherche additionnels. Et puis là, alors, le consentement, il n'est pas forcément clair quand on remplit le truc, hein, recommander de garder les données, etc. Et puis, là, ils ont déjà signé des contrats où ils ont vendu des données, alors anonymisées selon eux, mais c'est peut-être aussi une question qu'on pourra aborder ce soir, l'anonymisation des données génétiques. Et puis, pour ces contrats, ils ont été signés pour des dizaines de millions de dollars avec des boîtes pharmaceutiques. Donc, vous avez des grandes sociétés, grandes universités qui ont recours, le MIT, Stanford. Donc, OK. Puis, à côté de ça, eh ben, vous avez vraiment l'industrie pharmaceutique. Puis, à partir de là, on ne sait pas trop où sont nos données, comment ça va évoluer. Et puis, ces données, elles ont un caractère... Donc sensibles, elles sont traitées comme sensibles parce qu'elles ont un fort potentiel discriminant, c'est-à-dire du point de vue des assurances. En Suisse, on a des garanties qui sont assez fortes aujourd'hui. On ne sait pas comment ça va évoluer dans le futur, mais aussi du point de vue du travail et puis après de l'ethnie, etc. Donc vous pouvez imaginer toutes sortes de discriminations. Donc je crois qu'il faut bien avoir en tête ce business model qui est mis en place, où en fait vous payez pour recevoir un test dont la fiabilité n'est pas tout à fait... confirmé, mais par contre, vous donnez vos données avec ces données-là, et c'est ça qu'ils veulent, hein, au final, eh bien, ils font vraiment un business et ils se font des millions là-dessus.
Merci. Peter Foster, par rapport à, justement, la révision de la législation, on entend là que, du point de vue procédural, et si on pense à l'accès à la justice, à nos données, on est quand même relativement bien protégé en Suisse, mais quelle est la plus-value, finalement, de la révision législative d'une manière plus spécifique, concrète pour chacun d'entre nous ici, en quoi cette nouvelle législation va-t-elle nous aider, nous protéger davantage, ou peut-être moins, j'en sais rien, c'est à vous de nous le dire.
Je pense que le grand problème avec ces tests récréatifs, c'est qu'effectivement, c'est surtout des entreprises étrangères qui les offrent. Il n'y a pas tellement d'entreprises en Suisse qui offrent des tests récréatifs. Ce qu'on peut faire en Suisse, c'est réglementer comment ça doit se passer si quelqu'un veut faire un de ces tests. Alors, est-ce qu'il doit aller chez un médecin? Est-ce qu'il doit aller chez une autre personne qui a une certaine formation en génétique, qui peut expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer avec les données? Donc, le but, c'est de réglementer ça en Suisse, mais on peut rien faire si les gens commandent un test par Internet. Là, effectivement, on peut pas faire grand chose, à part peut-être si on faisait une convention internationale qui réglementait toutes les analyses génétiques à un niveau international. Mais au niveau suisse, on peut pas faire grand chose pour protéger le citoyen si lui, il commande un test à l'étranger.
Je peux poser une question de clarification justement par rapport à cet élément. C'est, est-ce qu'il est possible de réglementer les sociétés qui ont leur siège en Suisse et qui servent d'intermédiaires avec ces compagnies à l'étranger qui font les tests? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou d'envisager?
Oui, alors là, dans la nouvelle loi, on a introduit aussi une disposition par rapport à la publicité pour ces tests. Donc là, c'est réglementé. Mais beaucoup plus loin, on peut pas aller. Donc, si effectivement une entreprise en Suisse, elle offre ces tests, elle envoie après sur commande à quelqu'un qui est domicilié en Suisse un kit pour faire prélever la salive, là on dit voilà, c'est cette personne-là qui est responsable pour l'analyse, donc elle doit correspondre à certaines exigences législatives. Ouais. Mais dès que l'envoi se passe par l'étranger, Donc, très difficile.
On est dans un business model, comme on l'a entendu, qui relève du système international. Vous voulez réagir ?
Oui, il y a quand même... Alors, il y a juste une limite par rapport à ça, effectivement, par rapport à ce qui peut se faire, ce qui peut être puni ou pas en Suisse. C'est qu'il y a certaines sociétés à l'étranger qui vous proposent de vérifier si votre partenaire vous trompe. Alors, vous allez prendre des cheveux sur le coussin à côté. Et puis ensuite, avec la personne que vous suspectez, vous pouvez envoyer deux échantillons. Et puis, ils vous disent si ça appartient à la même personne ou pas. Ou bien si il y a un cheveu sur le manteau de votre mari ou votre épouse qui n'est pas le sien. Et bien, qui appartient à la personne que vous suspectez, justement. Donc, ça... Mandater une analyse, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, pour une analyse génétique, ça c'est clairement réprimandé et pénalement répréhensible. Donc c'est un délit puni jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, en tout cas, ne le faites pas. C'est interdit aussi bien sous la loi actuelle que dans la loi future. Donc effectivement, c'est difficile d'aller regarder punir ceux qui font à l'étranger. Par contre, si vous vous mandatez ici en Suisse ce genre d'analyse, là vous êtes punissable. En tout cas, sans le consentement de la personne.
Je vais mettre ma casquette de spécialiste quand même en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, c'est que la règle du consentement, elle est fondamentale, elle va s'appliquer, c'est une règle qui relève des droits de la personnalité. Dès qu'on fait une analyse, on porte atteinte à votre personnalité. C'est très important dans l'exemple qui vient d'être donné, c'est tout aussi important lorsqu'on parle de tests qui sont faits avec des enfants. Et je pense que ça, c'est important. Il faut protéger aussi les enfants par rapport aux tests éventuels qui pourraient se passer. Et il y a des situations dans lesquelles on va même pas reconnaître aux parents le droit de pouvoir mandater certains tests lorsqu'ils sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Et là, on parle pas dans le domaine médical, mais dans le domaine justement d'identification. Donc de ce côté-là, on a aussi des normes en droit suisse qui permettent de prévenir au sens... de décourager les éventuelles tentations de vouloir faire ces tests sans respecter le cadre légal. Les sanctions existent, les sanctions sont sévères. Je vous avais promis qu'après un troisième tour de table, je tendais le micro vers la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ? Et c'est un micro vert. Madame, monsieur, madame d'abord, monsieur ensuite. Merci.
Bon, j'avais 3 ou 4 questions, vous avez déjà répondu à 2, donc est-ce que je pose l'une et puis l'autre plus tard, ou bien je pose les deux en même temps ?
Si elles sont courtes, posez oui. Les deux, si elles sont longues, posez-en.
Alors justement, vous avez déjà abordé le sujet au niveau légal, étant donné que ces entreprises sont à l'étranger, probablement qu'elles deviendront des multinationales. À quelles lois sont-elles soumises ? Aux lois américaines, à des lois internationales ? Et en fonction des prochaines votations, j'ai déjà voté, mais en fonction des prochaines votations, c'est quelque chose qui illustrerait un peu ce genre de problématique ?
Bon, du point de vue de la protection des données, disons qu'il n'y a pas... Il y a un effet extraterritorial de la loi suisse avec un effet limité. C'est-à-dire qu'il faudrait... Il y a eu le cas dans l'affaire Google Street View, par exemple, où Google avait collecté, donc fait des photos ici. Elles avaient traité en Irlande, puis ensuite, elles étaient enregistrées, stockées aux États-Unis, et puis on pouvait les consulter en Suisse. Puis la tribunal fédéral a confirmé qu'effectivement, là, il y avait un effet suffisant, donc un lien suffisant en Suisse avec les données, et puis que les citoyens, en tout cas le préposé fédéral à la protection des données, pouvait agir, avait une compétence. Là, à partir du moment, à mon sens, où vous mettez de la salive dans un kit, vous l'envoyez aux États-Unis, il y a plus de... À mon avis, le lien n'est pas suffisamment étroit pour appliquer une loi suisse aux États-Unis. Donc là, ce serait c'est clairement le droit américain, à mon avis, qui s'appliquerait. En Europe, la situation elle est un tout petit peu différente maintenant avec le règlement général sur la protection des données qui a un effet extraterritorial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société étrangère propose des services à des clients qui sont domiciliés en Europe, et puis qu'elle viole justement le règlement général de la protection des données, eh bien elle peut être punie par des amendes relativement sévères. Puis ça, quand même, on voit qu'il y a un effet assez positif. Maintenant, les entreprises à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, sont quand même remis dans le rang. Donc là, en Suisse, d'ailleurs, je crois que dans le cadre de la révision de la LAGH, il a justement été, de la révision de la loi sur la protection des données. Il n'y a pas eu de volonté, justement, d'élargir cet effet extraterritorial.
Oui, je pense que la seule chose qu'on peut ajouter, qu'effectivement, les entreprises, par exemple américaines, c'est le droit américain qui leur dit quelles analyses elles ont le droit de faire. Comme disait Dominique Sprumont avant, par exemple, pour les enfants, en Suisse, on n'a pas le droit de faire des analyses qui ne concernent pas la santé directement. Et peut-être aux États-Unis, c'est admis, on peut faire n'importe quel test, même sur l'ADN d'un enfant. Et donc, c'est la loi américaine qui est valable pour cette entreprise-là. Et après, nous, à la limite, tout ce qu'on peut faire, c'est à la limite mettre une disposition pénale dans la loi qui dit que si un parent envoie l'ADN d'un enfant aux États-Unis pour faire des tests qui ne sont pas admis en Suisse, il sera puni. Mais après, il faudra déjà trouver ce parent qui a fait ça.
Alors la deuxième question, mais c'est un petit peu une boutade, puisque les intentions, bon, certains les ont clairement énoncées, mais les intentions d'entreprise privée outre-Atlantique n'inspirent pas forcément confiance. Pourquoi ne pas inciter des entreprises publiques européennes à faire concurrence à ces entreprises-là ? Bon, on n'est plus dans le domaine économique, mais ça touche aussi au juridique. Je sais pas, les universités.
Je pense que c'est peut-être le moment de parler de la fiabilité des tests, mais moi, je ne suis pas le grand spécialiste. Mais...
Ça pourrait financer quelques recherches universitaires tout à fait bien intentionnées.
Le scientifique va nous donner l'explication.
Donc, ces aspects génétiques sont très complexes. Hein. Comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, en fait, souvent les caractères observables ou les maladies sont déterminés par plusieurs gènes qui interagissent entre eux. Avec des gènes régulateurs, et donc ceci est très complexe, d'autant plus quand l'environnement encore va jouer un rôle. Donc je crois qu'il y a un problème de rigueur scientifique aussi là derrière. Et je pense que voilà, il faut quand même des sociétés qui sont, je dirais, peu scrupuleuses pour commercialiser ce genre de tests. Donc de le proposer à des universités suisses ou des choses comme ça. Enfin, je pense qu'ils auraient tendance à se discréditer par rapport à cela.
Et pour le faire, alors là, je mets ma casquette de président de la commission d'éthique de la recherche. Je me vois mal approuver un projet de recherche qui viserait à valider des tests dont la pertinence scientifique au départ ne serait pas évidente. Et donc, je prends un exemple d'une société qui est en Valais, Carmagène. Carmagène prétend que si vous envoyez votre patrimoine et celle de la personne de votre cœur ou de votre choix ou peut-être celle dont vous rêvez, ils vont pouvoir déterminer si vous êtes fait pour être ensemble. C'est du n'importe quoi. Vous pouvez prendre Madame Soleil ou bien il y a des émissions de télévision là-dessus, ça coûte cher, vous devez téléphoner. C'est à peu près la même chose. Si un universitaire, l'université de Neuchâtel, même si on n'a pas beaucoup d'argent, commençait à se lancer dans ce business, je suis pas sûr que le recteur serait très très content. On risque d'avoir des problèmes. Mais en tout cas, merci pour votre proposition. Je passerai plus haut à Monsieur le recteur. Non, on va passer la parole peut-être à Monsieur, si ça. On pourra toujours revenir si ça vous dérange pas.
Vous parliez avant, d'abord bonsoir, vous parliez des enfants et tout. Moi, ma question, elle est peut-être encore au stade d'avant, au stade embryonnaire, quand on a envie, quand les personnes vont avoir un enfant, on peut faire un test ADN et puis découvrir qu'ils ont, par exemple, qu'ils sont pas neurotypiques, qu'ils sont plutôt neurodivergents ou des choses comme ça. Puis là, ça pose la question carrément de si on veut garder un enfant, du choix d'avoir un enfant, aussi par rapport à nous-mêmes. On peut faire des tests par rapport à nous-mêmes et puis voir si on va transmettre, si nos enfants ont telle chance d'avoir une maladie, un développement différent de la norme, bien normatif. Puis c'est plutôt une question légale par rapport à ça, si c'est légal ou pas et jusqu'où on peut aller sur ce chemin.
Alors je vous remercie beaucoup pour cette question qui illustre bien la difficulté de tenir une discussion sur cette thématique sans aborder les autres aspects que la génétique récréative, puisque c'est un aspect qui est très important. Brièvement, est-ce que l'un ou l'autre voudrait réagir par rapport à la possibilité de faire ce type de test ?
Oui, alors ces tests sont déjà actuellement réglés dans la loi. Il s'agit de tests qui concernent le planning familial. si on veut savoir si on est porteur d'un gène ou d'une mutation génétique qui sera la cause d'une maladie, alors on peut faire tous ces tests sur soi-même sans problème. Ouais. Donc il faudra que ça soit fait chez un médecin. Donc on peut pas en Suisse, c'est pas possible de faire des tests génétiques médicaux sans aller chez un médecin, sans un contact personnel avec un médecin.
Moi, j'aimerais rebondir par rapport à cet aspect-là. Du point de vue des données que vous manipulez, est-ce que vous accédez à ces informations qui concernent justement la santé des criminels ou des victimes ou de leurs familles ?
Non, comme je disais tout à l'heure, ce sont d'autres lois. Là, on parle de la loi sur les analyses de génétique humaine. Et nos activités sont régies par la loi sur les profils ADN. Donc, c'est quelque chose de différent. Par contre, au niveau prénatal, on peut aussi faire des tests de paternité prénataux. Et par le passé, on les refusait systématiquement pour des raisons éthiques. Et puis, dans la dernière loi sur les analyses de génétique humaine, en fait, il y a un paragraphe qui stipule clairement que ces analyses sont possibles pour autant que ce soit réalisé après un conseil médical et que cet entretien soit protocolé. Donc c'est quelque chose qui apparaît clairement. Et puis maintenant, on était face à cette situation, on s'est dit, mais si c'est pas nous, en tant que laboratoire, on va dire sérieux et reconnu qu'il faisons, où est-ce que vont aller ces analyses? Et donc depuis, on fait des tests de paternité prénataux. Et l'idée que j'avais là derrière, c'était, si par exemple une femme se fait agresser sexuellement et qu'elle tombe enceinte après, ça doit être terrible pour elle de pas savoir si le père de l'enfant est le violeur ou son partenaire. Et c'était l'idée que j'avais, mais en fait, je dois dire que la quasi-totalité des cas qu'on a eus, c'est plutôt des questions de tromperie. Et voilà. Donc après, pour moi, ça me dérange profondément de se dire, si c'est mon partenaire régulier, le père, je garde l'enfant. Si c'est l'autre, j'avorte. Enfin, Mais en même temps, si on voit à plus long terme, il faut aussi que la famille soit préservée et peut-être d'avoir un enfant qui n'est pas désiré toute sa vie. C'est aussi quelque chose de pas forcément recommandable. Mais c'est délicat, très délicat.
Je relance le public par rapport à la thématique des questions.
Moi, je m'occupe de la révision de la loi sur la protection des données personnelles. Et puis, ce qui m'intéresse, une question qui nous occupe, c'est est-ce que des données génétiques sont automatiquement des données personnelles, c'est-à-dire qui permettent d'identifier une personne, ou bien est-ce qu'on peut aussi avoir des données génétiques qui ne permettent pas d'identifier une personne et qui donc ne tomberaient pas sous le coup de la loi sur la protection des données personnelles?
Donc là aussi, les choses évoluent assez vite. Je parlais tout à l'heure de cette étude qui montre qu'avec 2% de la population qui contribue à ces analyses généalogiques, on a accès en fait à toute la population. Et ce même groupe a pris dans la... Il y a une base de données qui s'appelle 1000 Genome Project. Donc ils ont séquencé 1000 individus pour les mettre à disposition de la communauté scientifique, pour faire des projets de recherche, pour faire des découvertes, pour faire avancer la science. Et en fait, le groupe qui a fait cet article a pris une personne de ce projet, et par une analyse généalogique, ils ont trouvé l'identité de la personne. Donc, ils ont montré qu'ils pouvaient lier l'ADN ou la séquence avec la personne. Donc c'est vrai que c'est une question délicate, et ça dépend ce qu'on va analyser dans l'ADN. Mais plus on analyse de grandes parties de l'ADN, et plus on va pouvoir faire des liens avec des personnes avec un lien de parenté éloigné.
Une deuxième question, quelle est la différence entre données génétiques et ADN? Pourquoi on parle de la loi sur l'analyse génétique et la loi sur le profil ADN?
Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est synonyme. Enfin, l'ADN, c'est le support de l'hérédité. Mais après, on parle aussi de génétique, de patrimoine génétique. Je pense que c'est la même chose.
Peut-être là-dessus, précision, Peter Forster.
Je pense que c'est un peu historiquement que c'est venu comme ça, parce que d'abord, on avait fait la loi sur les profils d'ADN, c'est dans le domaine de la police, pour tout ce qui est la criminalité. Et puis, disons, dans les deux cas, c'est le génome qui est analysé. Mais ce n'est pas les mêmes parties du génome qui sont analysées. Et là aussi, c'est en train de changer. Avant, on parlait que, ça vous savez mieux que moi, que dans le domaine des profils d'ADN, on ne regardait que des parties soi-disant non codantes, donc des parties du génome qui n'ont pas d'influence sur votre apparence ou bien sur le fonctionnement de votre corps, qui ne code pas pour des protéines qui après font quelque chose en effet sur votre organisme. Mais cette limite entre parties codantes et non codantes, elle est plus ou moins en train de se dissolver, on dit ? Dissoudre, pardon. Voilà, je suis suisse-allemand, on voit, on entend. C'est très délicat de faire maintenant effectivement la différence entre, ou bien de dire pourquoi on fait la différence entre profil ADN et analyse génétique. Dans les deux cas, on analyse le génome, mais on essaie quand même pour le moment de pas analyser les mêmes endroits du génome. Mais là, je pense que vous pouvez dire ça ou expliquer ça mieux que moi.
Actuellement, la loi sur les profils ADN, elle stipule qu'on ne peut pas déterminer, grâce à l'ADN, des caractéristiques propres à l'individu. Et par propre à l'individu, on parle de son apparence, de sa prédisposition à des maladies. Donc, c'est ce qui est précisé maintenant dans cette loi sur les profils ADN. Par contre, elle est en révision. Donc, elle sera probablement mise en consultation l'année prochaine. Et puis, elle est en révision parce qu'on s'est dit que c'était peut-être un peu restrictif. Donc c'est une loi qui date de 2003, et à ce moment-là, je pense que le législateur n'a pas imaginé tous les développements qui allaient se faire. Et puis maintenant, notamment les changements auront lieu pour permettre ces approches de portrait robot génétique. En disant que voilà, s'il y a de nouveau une affaire grave, et peut-être la police a un certain nombre de suspects, disons un nombre important, une centaine de suspects à disposition, peut-être que si on peut donner des éléments supplémentaires comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, l'âge, ou plus sensible, l'ethnie de la personne, eh bien peut-être que la police pourra d'abord focaliser l'enquête sur les 3-4 personnes qui présenteront ces caractères qui ont été prévus par l'ADN. Donc on a ceci qui est sur le grill, et donc effectivement ça va un petit peu... casser cette frontière de codant, non codant. Donc c'est vrai que c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose maintenant.
Oui, pour compléter aussi, il faut bien comprendre qu'un médecin de famille au XXe siècle faisait naturellement de la génétique, simplement en accueillant une famille, en accueillant le père, la mère, les enfants, les grands-parents. Il pouvait voir par rapport aux caractéristiques phénotypiques aussi des éléments qui se traduisaient en termes génétiques. Et quand le législateur a commencé à s'intéresser à réglementer les tests génétiques, il a voulu les circonscrire au domaine du laboratoire. Et pour bien le distinguer, on peut produire des données génétiques sans faire d'analyse d'ADN, simplement en faisant par exemple des analyses protéomiques ou simplement en regardant des éléments cliniques ou phénotypiques. Et là, je pense que c'est important de voir ce qui est réglementé. La loi sur l'analyse génétique humaine ne couvre pas justement ces données génétiques qui seraient obtenues autrement qu'à travers ces tests de laboratoire. Et ça, peut-être que ça peut changer, peut-être que ça peut évoluer, mais pour le moment, c'est une option qui a été mise en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Madame, vous aviez dit que vous aviez une troisième. Monsieur, s'il vous plaît, vous aurez votre troisième question, hein, je vous le promets, vous l'aurez.
Vous pouvez nous dire quelle est la fiabilité des tests ADN ? C'est ce qu'il y a des erreurs ? Est-ce que c'est une preuve absolue dans le cas d'un crime ou autre ?
Est-ce que vous vous trompez, monsieur Castella ?
Il ne faut pas le dire.
Je ne sais pas.
Ben disons, il y a des risques liés aux analyses, des risques de contamination, des risques d'inversion d'échantillons, par exemple, ce genre de risques. Mais en fait, les laboratoires qui font, les laboratoires qu'on appelle de génétique forensique, il y en a sept en Suisse, ce sont des laboratoires qui sont soumis à des règles extrêmement strictes. Donc, ils doivent être accrédités aux normes ISO 17025. Donc des normes internationales de qualité. Et on a également l'agrément de la police fédérale qui fait une surveillance. On doit leur rendre des rapports d'activité tous les 3 mois, puis une surveillance étroite qui est faite. Donc ça veut dire qu'on a développé des procédures en interne pour limiter tous ces risques. Mais je dis bien limiter les risques, parce qu'en fait, c'est des risques de contamination ou ce genre de choses. On ne peut pas carrément ou complètement les exclure. Donc on peut prendre des dispositions pour les minimiser, mais pas les exclure. Après, il faut voir que dans les séries télévisées, on a l'ADN, donc c'est la personne qui est coupable. Dans la vérité, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, l'ADN ne constitue pas une preuve, c'est un indice. Et c'est un indice qui doit être corroboré par les autres éléments. Donc l'ADN, c'est en quelque sorte une pièce du puzzle. Les autres éléments d'enquête doivent aller dans la même direction que l'ADN. Donc si on imagine, si la police fait bien, ou les magistrats font bien leur travail, on peut imaginer que même si l'ADN pointe faussement dans la direction d'une personne, eh bien, d'autres éléments d'enquête devraient tout à coup être en opposition ou montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. On va mettre la puce à l'oreille et puis envisager des éventuelles erreurs.
Pour la petite histoire, on donne une valeur probante aux gènes qui dépasse leur vraie valeur et on en a fait un usage de manière systématique dans le domaine de la justice à partir des années 80. Et les premiers à l'avoir fait, c'est les services d'immigration anglais, où il y a un responsable qui s'est dit, avec tous ces migrants qui arrivent, c'était bien avant le Brexit, mais il y avait déjà des résistants dans le Royaume-Uni, et ils se sont dit, on va faire passer des tests génétiques à ces migrants qui demandent des réunions familiales. En partant du principe, c'était tous des tricheurs. Alors, à l'époque, ça coûtait très cher, donc ça a coûté une fortune au ministère de l'Immigration. Et le gag, c'est qu'en fait, il s'est avéré que les gens trichaient pas et que l'écrasante majorité des gens qui venaient étaient vraiment un cousin, un frère, une sœur. Ce qui a peut-être donné une valeur à ces tests génétiques, on s'est dit, oh, c'est tellement fort. Mais vous voyez, on a tous mis nos verres là, on a bu un verre. Si quelqu'un veut venir piquer le verre dans lequel j'ai bu, puis va le prendre, puis va le mettre ailleurs sur une scène de crime... On fera le test, ce sera vraiment mon ADN, mais c'est pas moi qui suis responsable. Donc, la valeur probante de ces tests n'est pas plus grande que n'importe quel autre élément que la justice va devoir manipuler. Et là, je sais pas, en tant qu'avocat, est-ce que vous voyez un comportement différent chez les juges, ou est-ce que vous avez une expérience par rapport à ces éléments-là sur la gestion des preuves ?
J'ai aucune expérience.
Il y a un grand changement, effectivement. Ça fait un petit moment que je suis dans le domaine maintenant. Et puis, je dirais par le passé, il y a plus de 3-4 ans, la stratégie de la défense, parce qu'on a appelé régulièrement à témoigner au tribunal, la stratégie de la défense, c'était souvent de contester que la personne était à l'origine de l'ADN. L'avocat disait non, c'est pas mon client, c'est quelqu'un d'autre, c'est une correspondance qui était une correspondance fortuite. Et puis, alors on ne pouvait pas le contester, hein, parce que nous, on ne dit jamais que c'est la personne. On explique à quel point nos résultats d'analyse sont compatibles avec cette hypothèse. Donc c'est une petite nuance. Mais en fait, maintenant, le grand jeu, les grandes stratégies de défense, c'est de ne pas contester qu'il s'agit de l'ADN de la personne. Il dit oui, c'est bien mon client, c'est bien l'ADN de mon client. Mais par contre, c'est de trouver un scénario ou une histoire qui explique la présence de cet ADN de façon licite. Autrement dit, cette personne n'a pas agressé, enfin, le client ou la personne mise en cause n'a pas agressé sexuellement la victime, mais par contre, cette victime a eu un malaise, alors il a essayé de lui faire du bouche à bouche et puis un massage cardiaque pour essayer de la sauver. Et du coup, vu qu'il lui a fait du bouche à bouche, on retrouve son ADN sur les lèvres de la victime, il a dû dégrafer son soutien-gorge pour lui faire un massage cardiaque, donc on retrouve son ADN aussi sur le soutien-gorge. Et puis, c'est ce genre de choses qui sont mises en avant. Et pour nous, une des limites de l'ADN, donc quand on s'exprime au niveau de la source, donc de l'origine de l'ADN, on est très très puissant parce que ces profils ADN sont très rares. Par contre, quand on s'intéresse à essayer de se prononcer sur les mécanismes qui ont amené à la présence de l'ADN à un endroit particulier, c'est beaucoup plus délicat. Donc dans certains cas, on a des attentes qui sont différentes en fonction des scénarios de l'accusation et de la défense, par exemple. Puis d'autres fois, bah, que l'ADN soit arrivé parce que la personne a essayé de l'étrangler ou qu'il soit arrivé là parce qu'elle a simplement croisé dans la rue et puis elle l'a touché dans le métro parce que c'était serré. En ce moment, on peut pas dire comment l'ADN est arrivé. Donc c'est beaucoup plus difficile.
D'autres questions ?
En fait, avec le temps, hein, il y en a une deuxième qui est venue. Enfin, bref, ce que je voulais savoir, c'est quand, enfin, il me semble avoir vu une émission ou bien lu dans une revue qu'on a pu définir des flux migratoires de population depuis l'époque du Néandertal en recouvrant des bribes de chaînes ADN dans les populations actuelles. De ce point de vue-là, c'est pas médical, mais c'est hyper intéressant du point de vue anthropologique, etc. Qui c'est qui a fait ces études-là ? C'est des universités, c'est des entreprises privées. Là, il y a un intérêt commun, enfin pour la population en général, pour la connaissance.
Alors effectivement, l'ADN, on l'utilise dans le domaine médical, dans le domaine judiciaire, mais aussi dans le domaine de la recherche. Et je parlais tout à l'heure de génétique des populations. Donc là, c'est typiquement une discipline qui s'intéresse à essayer de reconstituer l'histoire de populations, d'essayer d'estimer les échanges qu'il y a eu entre les populations. Et donc, dans ce genre d'études, on peut considérer ce qu'on appelle des marqueurs de lignée, qui sont typiquement l'ADN mitochondrial, qui est transmis de la mère à ses enfants inchangés, et qui permet donc de retracer l'histoire de lignée. De façon analogue, chez l'homme, on peut suivre le chromosome Y qui est transmis du père à ses enfants et qui permet aussi de suivre des lignées et leur déplacement.
Il y a un très beau livre, c'est bientôt Noël, si ça vous dit. C'est sur justement l'ADN de Néandertal. Un chercheur, un scientifique. Alors, par rapport à votre question, c'est aussi bien des fonds privés que des fonds publics, puisqu'il y a des entreprises qui font aussi de la publicité et qui sont intéressées par rapport aux défis technologiques. Et il y a des concours et il y a des motivations aussi là derrière pour développer les technologies qui vont avec. Donc, il y a un livre sur l'ADN de Néandertal qui est absolument génial, que je vous recommande fortement, parce que justement, on décrit très très bien la difficulté de faire un test d'ADN qui est saturé de bruit autour, puisqu'ils se sont rendus compte, quand ils ont voulu commencer à le faire, qu'ils faisaient des tests d'eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'ADN propre de Néandertal. Comment faire pour avoir de l'ADN propre alors que tout le monde l'a manipulé dans les musées et ailleurs ? C'est un beau défi.
Pour juste rebondir, je pense qu'effectivement, il y a des grands avantages à faire de la recherche sur ces données-là. Le problème, à mon avis, ben, toujours du point de vue de la protection des données et de la collecte, c'est que là, le but, il n'est pas très clairement défini. C'est-à-dire qu'on vous vend ça comme si, vous allez découvrir d'où vous venez. Déjà, on n'est pas tout à fait sûr sur le résultat. Et puis, ça a l'air super. Et puis, voilà. Et puis, je crois que c'est vraiment intéressant de faire le petit exercice. Enfin, si vous voulez faire le test un jour, alors, je ne sais pas si après aujourd'hui, vous voudrez le faire ou pas, mais c'est quand même assez intéressant d'aller voir les conditions générales de ce genre de compagnie. Et puis, il y a toute une série de questions qu'on peut se poser. Par exemple, qu'est-ce qu'il advient de mon échantillon ? Qu'est-ce qu'il advient de mes données ? Est-ce qu'elles sont détruites ou pas ? Pendant combien de temps elles sont conservées ? Qu'est-ce qui se passe si la société fait faillite, est rachetée ? Cesse son activité, qu'est-ce qui se passe si les conditions générales changent, est-ce que je suis averti ou pas, est-ce que je peux me retirer si elles sont utilisées pendant de la recherche, est-ce que je peux sortir parce que c'est pas un projet de recherche qui me plaît, quels sont les avantages que je peux en tirer ou pas. Enfin, il y a toute une série de questions, il y a eu des articles là-dessus qui ont été écrits aux États-Unis. Et puis, donc si vous posez vraiment les questions, ben, vous pouvez peut-être imaginer, donc, et encore, vous n'allez pas vraiment réussir à déterminer à quoi vont servir vos données. Mais là, c'est justement cette question-là, c'est que je pense que c'est effectivement intéressant d'utiliser ces bases de données, mais au niveau de la collecte, et puis surtout du point de vue de la finalité, puis de la transparence, et bien là, il y a des efforts à faire. Donc si vous consentez à ce que vos données soient utilisées pour telles études, et puis que vous êtes averti des risques surtout qui pourra arriver, parce que c'est quand même des données, on a dit, sensibles avant, risque de discrimination, les problèmes de travail, assurance, etc., et bien vous prenez le risque, peut-être, ok, mais il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a peu de transparence dans ce domaine-là.
Je vais juste faire je partage tout à fait votre avis, je vais faire la distinction entre ces analyses qui sont individuelles et qui vont essayer de rechercher d'où vous venez, puis de vous dire que vous avez, je sais pas, 60% d'origine européenne, 15% d'origine africaine et je ne sais quoi. Donc, c'est des résultats qui ne sont pas forcément exploitables tels quels. Et puis, je parlais de génétique des populations. Donc là, c'est vraiment des études scientifiques faites par des universités, des chercheurs connus qui vont essayer de se pencher sur des questions de recolonisation, des hypothèses de l'Ève africaine, l'effet sur l'ADN des épisodes de contraction de population, ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Enfin, toutes ces choses qui vont essayer de comprendre comment la variabilité génétique se distribue en fonction de l'histoire des populations. Donc tout ça, ce sont des études qui sont très très sérieuses et qui amènent beaucoup d'informations sur notre histoire. Donc je voulais juste faire la distinction entre ces analyses personnelles pour essayer d'éclaircir un petit peu son histoire, son origine, et puis ce qui se fait par des chercheurs sur des populations ou sur ces séquençages d'hommes de Néandertal, enfin ces choses-là qui sont scientifiquement extrêmement complexes, mais qui font aussi avancer notre connaissance à ce niveau-là.
Ben, je partage aussi. Non, mais je crois qu'on est d'accord. Non, mais c'est vraiment la question de transparence au moment de la collecte. En fait, c'est un peu ça qui m'inquiète potentiellement face au risque. Mais après, l'intérêt de la recherche, il existe, hein, il est là.
Oui, moi, j'ai quand même une question, alors, plutôt à Peter Forster par rapport à la protection de la législation. Je décide de faire un test récréatif. Je veux connaître mes origines ou que sais-je. Je veux trouver l'âme sœur. Enfin, non, j'ai pas besoin. Non, je suis amoureux de ma femme. Mais le point important, c'est que je vais faire ce test. Quelle est la garantie que me donne la législation aujourd'hui, la Constitution, que dans 10 ans, il y a une compagnie d'assurance qui va venir me voir et puis qui va me poser une de ces questions. Est-ce que vous avez déjà fait un test génétique? Puis je vais devoir répondre oui, parce que si je réponds non, je mens à la caisse en question ou à l'assurance en question. Puis après, on va me demander, donnez-nous les résultats. Alors au départ, je penserais que c'est des tests avec des informations non codantes, et puis il s'avère que dans 10 ans, la technique a évolué, puis cette assurance va me dire, pas d'assurance. Est-ce que je suis protégé ou bien pas?
Alors, pour le moment, effectivement, et aussi dans la nouvelle loi, il y a des règles pour les assurances et aussi pour les employeurs. Est-ce qu'ils ont le droit de poser même la question à la personne qui voudrait avoir une assurance si elle a fait déjà une fois une analyse génétique ou pas? Donc, c'est réglementé actuellement. Donc, quelle limite c'est possible ou pas possible? Mais comment ça sera dans 10 ans? Ça, on ne sait pas. Ou dans 15 ans? Si dans 15 ans la loi change et puis que tu as déjà fait ton analyse il y a 20 ans, peut-être tu devras quand même la déclarer.
Ça vaut la peine d'intégrer ça comme élément dans la réflexion par rapport à l'évaluation des risques.
Ouais.
Si je comprends bien, parce que Frédéric Erhardt nous suggère de faire cette analyse, mais finalement on le fait par rapport à un cadre actuel et connu. Mais la particularité de ces données, c'est qu'elles... elles ont une durée de vie qui est aussi longue que la nôtre et qui nous dépasse, hein, puisqu'on fait même les tests d'ADN de Néandertal. Donc, je ne sais pas s'il était assuré, mais... Donc, je pense que ça, c'est une dimension à prendre en considération. La protection des données nous aide-t-elle d'un grand secours par rapport à tout ça? Le secret médical, Hippocrate, il n'est pas un peu has-been?
Bon, le secret médical, c'est à partir du moment où il y a des soignants. Enfin, là, on est en dehors du contexte, je crois, dans la médecine vraiment purement récréative.
Mais même si je fais alors un test génétique aujourd'hui pour des raisons médicales, est-ce que dans 10 ans, je dois craindre par rapport à mon assureur?
Alors effectivement, si c'est, une analyse qui est faite dans le cadre médical, il y a le secret professionnel qui s'applique. Donc là, il y aura des limites. Après, maintenant, dans la révision, sauf erreur, il y a des cas d'assurance privée où on pourrait exiger que le client fournisse le test dans la mesure où il l'aurait fait avant, mais si c'est couvert par le secret, en principe, ça ne devrait pas sortir. Je ne sais pas, c'est pas la partie que la loi que je connais le mieux, mais...
Oui, alors effectivement, dans la loi actuelle, comme dans la révision, c'est la même réglementation. Tout ce qui est analyse, tout ce qui est assurance sociale, alors là, on n'a vraiment aucune obligation de divulguer n'importe quel résultat d'une analyse qu'on a fait. La question s'est posée par rapport aux assurances privées et surtout par rapport aux assurances vie, parce qu'il y a des maladies génétiques qui se...
Manifeste,
se manifeste seulement à partir d'un certain âge, à 40 ans ou à 50 ans. Et puis si une personne a fait une analyse génétique à l'âge de 20 ans, elle sait qu'à l'âge de 40 ans, elle sera grièvement malade. Est-ce que l'assurance a le droit de savoir ça? Et puis la règle, elle est telle qu'à partir d'une assurance vie en dessous de 400 000 francs, oui, la personne doit l'annoncer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si la personne ne l'annonce pas, si elle dit non? Après, c'est toujours l'assurance devrait, après coup, pouvoir prouver que la personne avait déjà fait une fois l'analyse. Donc,
on se retrouve dans une situation ordinaire, finalement, par rapport à d'autres cas de ce qu'on va appeler anti-sélection. Ça peut être intégénétique ou d'autres informations.
Et puis effectivement, on ne sait pas comment ça sera dans 10 ans. L'année passée, quand la loi a été discutée au Parlement, ce point était un des points qui a été fortement discuté. Et la lobby des assurances, elle a fait pas mal de pression pour enlever cette limite de 400 000 francs. Peut-être à la prochaine révision, elle arrivera à faire enlever cette limite. Mais donc on ne sait pas. On ne sait pas dans 15 ans quelle sera la loi. Donc, mieux vaut être prudent avec les analyses qu'on fait. Mais quand même, tout ce qui est récréatif, je veux dire, ça n'intéresse pas les assurances, mais pas du tout. Parce qu'ils ne peuvent en tirer aucune valeur par rapport aux primes d'assurance. Si quelqu'un a un caractère, parce qu'il y a aussi des analyses qui sont offertes maintenant par rapport au caractère d'une personne. Est-ce que quelqu'un est plutôt a un talent pour la musique ou je sais pas. Il y a tout qui est, il y a vraiment toutes sortes d'analyses qui sont.
Mais c'est
sur
du n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. Et ces analyses-là, ça va jamais intéresser les assurances. Ce qui intéresse les assurances, c'est vraiment les analyses médicales.
Je trouve qu'il y a une contradiction dans votre discours entre Frédéric Erhard et Peter Foster. Là, je vais quand même devoir clarifier les choses, puis je vous prends à témoin. Frédéric Erhard nous explique qu'il y a un business model, on a des entreprises qui mettent en paravent des activités dites récréatives et nous attirent en plus à nos frais pour avoir des tests. Puis en fait, derrière, elles pompent les informations pour faire des choses sérieuses. Finalement, par rapport à ce que tu expliques, je vois pas pourquoi un assureur qui serait pas un peu plus réveillé que les autres se dise « Ah ben, vous avez fait un test récréatif, donnez-nous le résultat ou donnez-nous la composante de ce test, parce que nous, on a des médecins conseils qui seront capables peut-être d'aller repérer les choses que on va pouvoir utiliser contre vous. »
Oui, mais là, ça serait complètement contraire à la loi, parce qu'il n'y a aucun consentement pour faire ces analyses supplémentaires. Une assurance n'a pas le droit de faire une analyse à partir d'un génome qui est là, parce que vous avez fait analyser des trucs récréatifs, et après...
Donc là, de ce point de vue-là, la loi nous protège. Moi, en même temps, j'aimerais vous inviter à regarder le temps présent du 6 septembre. Ce Parlement est mauvais pour la santé, est dangereux pour la santé. On peut pas savoir qu'est-ce qu'ils vont nous faire la prochaine fois. Et c'est vrai qu'on a frôlé le code la dernière fois quand il y avait ces questions d'assurance qui étaient sur le tapis. Puisque, moi, je remets ma casquette de président de la commission d'éthique de la recherche, c'est que
Si cette disposition était passée, et c'est intéressant de le savoir, l'Académie des sciences médicales et des éminents chercheurs se sont rendus à Berne le jour même où cette question était soumise au vote pour faire pression sur les parlementaires, pour leur dire « si vous faites passer ce texte, c'est la fin de la recherche génétique en Suisse ». Parce que n'importe lequel d'entre vous, si vous m'auriez posé la question avec ces dispositions, je vous ai dit « ne participez surtout pas à de la recherche, parce que votre assureur pourra à n'importe quel moment venir vous demander les résultats et les utiliser contre vous ». Donc, pour le moment, le milieu scientifique ont réussi à renverser la vapeur. Combien de temps ça va durer ou pas, c'est un choix de société. Je vois que l'heure passe. Est-ce qu'il y a encore une question, s'il vous plaît, madame ?
Bonsoir. Si on fait une analyse récréative et que le laboratoire voit une mutation connue pour une certaine maladie, est-ce qu'il aura la possibilité de tenir la personne au courant ou est-ce qu'il va juste donner les résultats qui étaient demandés sans parler de la mutation et potentiellement la maladie qui va...
Un d'entre vous veut se lancer ?
Alors pour le moment, c'est justement pas réglé parce que les tests récréatifs ne sont pas réglés en Suisse. Donc si une entreprise américaine où vous envoyez votre salive pour faire un test récréatif, je ne sais pas. Si, je pense que ça doit être dans les conditions générales, s'ils divulguent des résultats supplémentaires ou pas. Dans la nouvelle loi suisse, c'est réglementé que pour tout ce qui est récréatif, les entreprises n'ont pas le droit d'informer les personnes concernées d'un résultat qui concerne la santé.
Il y a dans ce domaine des variations dans la législation. Là, je pense par rapport à une personne qui elle-même apprend qu'elle est porteuse d'un gène. En droit suisse, la personne elle-même, le médecin, n'a pas d'obligation, le médecin a même l'interdiction de transférer cette information à des tiers, notamment à la famille, alors qu'on prend par exemple le droit français, qui lui, au contraire, prévoit, lorsqu'un médecin constate qu'un de ses patients est porteur d'un tel gène, eh ben là, il va avoir une obligation d'informer le reste de la famille. On voit par rapport à ces questions-là, des disparités d'un pays à l'autre. On parlait d'une dimension internationale. Je ne sais pas comment les scientifiques, les juristes gèrent tout ça. Vous vouliez réagir sur ces points, M. Castella ?
Oui, je voulais juste rebondir sur cette question. Bon, il faut dire qu'il y a de nouveaux marqueurs génétiques qui sont régulièrement retrouvés. Et puis ça inquiète aussi d'ailleurs un peu les scientifiques parce que plus on analyse de grandes parties d'ADN, plus il faut de personnes analysées pour trouver des associations qui sont significatives. Et donc il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement qui mettent en évidence des associations qui en fait sont artificielles. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc mon laboratoire fait partie d'un centre de médecine légale. Et dans la médecine légale, il y a aussi certaines approches, enfin de ces approches médicales, là aussi ça fait un point de connexion. Il y a le champ de ce qu'on appelle les autopsies génétiques qui se développent. Et on sait qu'au niveau de l'ADN, certaines mutations sont associées, par exemple, à des pathologies cardiaques. Et du coup, parfois dans des questions de mort inexpliquée, on peut rechercher ces mutations, puis tiens, cette mort inexpliquée, en fait, cette personne était porteuse des marqueurs qui sont associés à telle pathologie cardiaque, donc très vraisemblablement qu'il est mort de cette pathologie-là. Et après, se pose la question de la famille. Est-ce qu'il faut analyser les parents proches de cette personne, vu que la cause du décès est probablement liée à cette mutation ou ces mutations ? Est-ce qu'il faut retourner vers la famille ou pas ? Et donc, c'est des questions qui sont épineuses.
Je vois que nous arrivons petit à petit au bout du temps qui nous était imparti, selon la formule traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez appris quelque chose. J'espère au moins qu'on a éveillé votre intérêt et votre curiosité. J'aimerais vraiment remercier nos trois intervenants. La thématique est complexe, vous l'avez compris. Elle demande beaucoup de prudence et beaucoup de nuances pour pouvoir l'aborder. Je suis vraiment impressionné qu'on a réussi à passer à travers tous ces éléments-là. On retiendra que les tests récréatifs, je pense que c'est important qu'on le souligne ici, ne sont pas actuellement très bien vu d'un point de vue scientifique, qui repose sur plutôt un modèle de marketing dont on doit s'inquiéter, puisque derrière, c'est nos données de santé qui sont concernées, c'est notre santé de demain, c'est notre système de soins de demain qui est en jeu. Donc là, on doit être prudent. Je crois qu'on doit être aussi, on a entendu, attentif aux travaux législatifs. On a une loi sur l'allèle génétique, on a entendu qu'elle était relativement bien conçue, qu'elle nous protégeait. Notre ordre juridique n'est pas si en retard que on pourrait le craindre. Mais en même temps, il s'agit de s'impliquer. On a beaucoup, on voit, il y a des jeunes aussi ici qui sont là parmi nous. Préparez-vous à défendre vos droits aussi et ne vous pensez pas que les choses sont acquises. Je crois qu'on va devoir pendant les décennies et les siècles qui suivent, choisir le type de société qu'on veut, une société solidaire, une société dans laquelle, quand on va chez le médecin, quand on demande des soins, on peut compter sur le secret médical, on peut compter sur la protection de notre sphère privée. Et on est aussi prêt à partager ce risque, aussi ce bien que constitue la santé. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'il va y avoir des branches sérieuses de la génétique récréative qui vont un jour se développer, qui sait, en tant qu'universitaire, en tant qu'académique, je reste un grand sceptique, mais j'observe ça. Il y a d'autres enjeux. Le monde produit parfois des choses comme ça qu'on s'attend pas. Là, il y a un business qui est en train de se faire. Ça fait vivre du monde, ça fait tourner les marmites dans certaines familles, tant mieux. Ben voilà, on pourra garder ça. J'espère que ce sera pas trop négatif dans le futur. Pour le moment, on tient la route. Je ne sais pas si vous voudriez compléter, modifier, nuancer vos propos. Un petit mot de la fin. Frédéric Erard veut se lancer. À toi.
Ils font des offres pour Noël, alors réfléchissez à deux fois avant d'offrir le test à votre tante. Voilà.
Joyeux Noël.
Voilà. Avant de prendre congé de vous, je voudrais juste remercier encore une fois l'organisateur de cette soirée, Dominique Sprumont, et puis aussi dire que c'est un peu une soirée spéciale parce que notre technicien en chef, Joël Morf, fait sa dernière prestation pour les cafés scientifiques ici. Et je voudrais, au nom du comité, le remercier un peu. Alors, Joël, tu peux venir un peu sur le devant de la scène, une fois n'est pas coutume. Voilà. On a un petit présent. Si j'arrive. Voilà, alors, au nom des cafés scientifiques, merci beaucoup d'avoir assuré pendant toutes ces années. Voilà, pour la photo. Et puis, je vois que ton prédécesseur est aussi dans la salle. On peut aussi lui faire un grand bravo parce que Roland Hemsler, ici présent, avait assuré les cafés scientifiques pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, voilà. Donc tout le monde est là et donc encore une fois merci pour les intervenants de ce soir et aussi on les oublie pas, on a aussi un petit cadeau pour vous. Voilà. Merci beaucoup, bonne rentrée et je vous donne rendez-vous le 16 janvier. Vous avez déjà sur les tables, je vous invite à aller prendre les programmes de l'année prochaine et le 16 janvier, nous traiterons des héros au passé décomposé. Je vous laisse un peu réfléchir. Enfin, c'est suite à l'affaire Louis Agassi et qui concerne un peu l'université de Neuchâtel et le baptême d'une place au nom de Thilo Frey. Voilà, on va prolonger cette discussion le 16 janvier autour de cette problématique du passé. Voilà, un café historique, donc. Merci et bon Noël.